Musique sans frontières, c'est du blues, du rock, du country américain, ainsi que des musiques variées.
Musique sans frontières avec Michel Giroux, c'est tous les samedis à 19h sur les ondes de CKIA FM 88.3, la radio urbaine à Québec.
Fan de rock progressif, Profil, c'est votre référence depuis 30 ans. Découvertes musicales, entrevues, spectacles et plus. Soyez à l'écoute tous les dimanches à 20h au 88,3 FM ou sur profilprog.com. Profil, c'est 30 ans de découvertes musicales.
Bonjour, ici Marlène Bordelot. Voici votre bulletin du vendredi 10 avril 2026. À compter de demain jusqu'au 24 avril, le 5e groupe Brigade mécanisée du Canada mènera un exercice militaire d'importance à travers le Québec. L'exercice se déroulera notamment dans plusieurs secteurs de la capitale nationale et Chaudière-Appalaches. Des simulations de combat auront lieu. Les citoyennes et citoyens des environs pourraient entendre des coups de feu simulés, des détonations, ainsi qu'apercevoir des effets pyrotechniques. Rappelons que les munitions utilisées ne présentent aucun danger pour la population. La Ruche-Vanier a obtenu un financement de la Ville de Québec pour la mise en place d'un projet d'agent du vivre ensemble interculturel. Ce financement permettra notamment l'embauche d'une personne ressource ainsi que la conception et l'animation d'activités favorisant les rapprochements interculturels dans le quartier. Ce projet pilote d'une durée d'un an pourrait mener à la conclusion d'une entente triennale. La mission de la Ruche-Vanier est de favoriser l'amélioration de la qualité de vie et le développement du pouvoir d'agir des citoyennes et citoyens de Vanier, et d'abord des personnes et des familles en situation de pauvreté et d'exclusion sociale. Les travaux de réaménagement du parc Girardin, situé dans le site patrimonial déclaré de Beauport, débuteront en mai prochain et s'échelonneront jusqu'au printemps 2027, avec une réouverture du parc prévue en juin 2027. C'est la Ville de Québec qui en a fait l'annonce hier. Ces travaux comprennent, entre autres, l'aménagement d'une nouvelle aire de spectacle avec mobilier d'éclairage et services électriques, la construction d'un kiosque, l'installation d'éléments de pierre de taille et de revêtement de sol, ainsi que des travaux horticoles. Charlotte Raymond, étudiante de troisième année en technique juridique au Cégep Garneau et gymnaste de l'Alliance Sport-Études, s'est illustrée lors de la compétition DTB Pokal présentée récemment à Stuttgart en Allemagne. La gymnaste a contribué au succès d'Équipe Canada qui a remporté la médaille d'or dans la catégorie Challenge Senior Féminin. Charlotte Raymond a de plus récolté la médaille de bronze aux barres asymétriques lors de la finale individuelle. Demain, le quartier Saint-Sauveur célébrera l'arrivée du printemps. Une programmation gratuite alliant plaisir de l'érable et bien-être permettra de se régaler tout en renouant avec le plaisir de bouger. Le tout se déroulera de 11h à 16h au coin des rues Saint-Vallier et Bagotte, ainsi que dans les commerces participants. Une douce pensée pour la famille, les proches et les amis de Denis Roberge, dont nous avons appris le décès. Denis a été impliqué à CKIA comme technicien pendant de nombreuses années. Tous se rappellent sa gentillesse, sa patience et son altruisme. Toute l'équipe de CKIA offre ses plus sincères sympathies aux proches. C'est ce qui complète cette édition. Au nom de toute l'équipe, bonne journée à l'antenne de CKIA 88.3 FM et CKIAFM.org.
Simplicité. Thank you.
Dans l'ensemble, les hommes ont travaillé sans méthode à l'aménagement de la terre. Ils savaient bien quelle part du sol convenait à leur culture et ils la choisissaient judicieusement, mais avec quelle barbarie procédaient-ils à la préparation du terrain? Encore maintenant, aux États-Unis, au Canada, au Brésil, des pionniers de l'agriculture commencent leur œuvre d'enrichissement de la terre par la destruction de la forêt vierge. Ils attendent la saison favorable des sécheresses pour allumer le bois et l'on voit l'incendie se propager effroyablement d'une rivière à l'autre ou bien entre deux montagnes, brûlant en même temps les animaux, noircissant le ciel de leur fumée, livrant au vent des cendres qui se répandent jusqu'à des centaines de kilomètres. Tout est dévasté sur la terre noirâtre. À peine quelques énormes souches ont-elles résisté aux flammes, se dressant en fûts inégaux et calcinés au-dessus des lits entassés du charbon. Quelques années d'attente et ces fourrés de bois qu'on a niaisement carbonisés auraient pris une valeur extrême pour la charpente et l'ébénisterie. Ils auraient gardé surtout leur part dans l'hygiène générale de la terre et de ses espèces, car dans la distribution des formes géographiques, la forêt a son rôle essentiel après les étendues océaniques et l'architecture des plateaux et des monts. C'est principalement au point de vue climat que les forêts ont été mal gérés ou plutôt abandonnés au hasard. Et, cependant, la terre devrait être soignée comme un grand corps dont la respiration accomplie par les forêts se réglerait conformément à une méthode scientifique. Elle a ses poumons que les hommes devraient respecter puisque leur propre hygiène en dépend.
La cime des arbres, des ombres à la dérive, la nuit aspire le ciel, la lune boit lentement les reflets diamants. Léger, calme, heureux, l'âme en silence chante. Tu l'as
Alors, bienvenue en toute simplicité. Aujourd'hui, on va parler de permaculture ou d'agriculture pérenne, disons, ou de jardinage et philosophie, avec Marie Thévard, qui est l'auteur, entre autres, du Jardin Vivrier, que j'ai rencontré au début du mois de mars, là, à la Fête des semences, événement dont je vous ai parlé, que j'aime beaucoup. Alors, ça va être un peu plus tard en émission. Avant ça, j'ai quelques lectures que j'ai retenues pour cette semaine. Puis aussi, on va avoir notre petite capsule de poésie avec Luc Vigneault, avant de passer avec Mme Thévard sur la permaculture. Alors, je fais ça assez rapidement. Dans le devoir de vendredi dernier, on parle de relancer les gaz de schiste alors que les vieux puits fuient. Alors, ça aussi, c'est un peu surprenant qu'on va voir. Là, c'est à venir. C'est pas trop, trop. Il y avait dans le devoir d'aujourd'hui un texte de José Blanchette, c'est la chronique de José Blanchette, qui parlait de la conscience, mais à la fin, elle a un petit encore. Elle dit « Je vous conseille aussi une entrevue avec le généticien David Suzuki, enregistrée récemment à l'occasion de ses 90 ans et de la sortie de son livre « Lessons from Lifetime ». On lui a conseillé de se taire durant des années pour ne pas déprimer les téléspectateurs. Aujourd'hui, il estime qu'il a participé au déni environnemental. Reste que, pense-t-il, notre indifférence au problème est largement nourrie par notre séparation avec la nature. C'est un peu ça qui va être le sujet d'aujourd'hui. L'économie a pris le pas sur la qualité de l'air et de l'eau. L'augmentation de 3 degrés Celsius de la température mondiale prévue en 2050 nous tire vers le chaos. Suzuki demeure dans l'action malgré son âge, inspirant. Alors ça, c'est disponible en ligne, j'imagine, son écrit de David Suzuki, Lesson from a Lifetime. En passant, l'extrait que je vous ai lu en début d'émission, contrairement à d'habitude, c'est pas un extrait de Walden, de Thoreau, mais plutôt de Élisée Reclus, un grand géographe du 19e siècle, et ce texte-là qui vraiment surprenant d'actualité, ben, il a été écrit à la fin du 19e siècle par le grand géographe Élisée Reclus, que je vous recommande. Si vous avez la chance de lire des textes d'Élisée Reclus, c'est un visionnaire, n'est pas un homme qui était en avance sur son époque. Dans le devoir de samedi dernier, il y avait un texte intéressant. « Humains et animaux auraient les mêmes préférences acoustiques. » On dit que Darwin avait vraisemblablement raison. Certains animaux ont le même goût du beau que nous, les humains. Une étude récemment publiée dans la revue Science indiquant que les humains ont très souvent tendance à préférer les mêmes sons que les animaux ajoute une preuve à cette intuition du père de la théorie de l'évolution. Les couleurs éblouissantes des papillons, le parfum envoûtant des fleurs, le chant mélodieux de certains oiseaux n'attirent pas seulement les animaux auxquels ces stimuli sont destinés. Ils ravissent aussi les humains, font remarquer d'entrée de jeu les auteurs de l'article. C'est en observant les fabuleuses couleurs qu'arborent certains oiseaux pour conquérir leur partenaire sexuel que Darwin avait avancé l'hypothèse que cette attirance pour le beau ne serait pas l'apanage de l'humain, mais qu'elle serait aussi présente chez d'autres espèces animales et qu'elle serait apparue bien avant nous, se perpétuant au cours de l'évolution. Alors, c'est des chercheurs de l'Université McGill. Encore une fois, on lit sur les animaux, sur la nature, on réalise pas que les animaux sont comme nous. Ce sont des êtres avec une vie puis une conscience comme nous. Aussi, il y avait dans le devoir de jeudi un rappel sur le film, le magnifique film d'Amélie Poulain. C'est le 25e anniversaire de la sortie de ce film-là qui, au départ, était comme vu comme bizarre, puis qu'on pensait que ça serait pas un succès, puis aujourd'hui c'est devenu un classique. Alors, c'est un texte sur le film Le fabuleux destin d'Amélie Poulain dans Le Devoir de jeudi hier. On parle aussi dans Le Devoir d'aujourd'hui. Il y a un texte sur Mathieu David Gagnon. que je vous fais jouer régulièrement, ici, à toute simplicité, son album Flore Laurentienne. Et là, il va sortir un Flore Laurentienne volume 3. Je vais vous, en fin d'émission, là, je vais vous passer un extrait du volume 2. Le volume 3 vient de sortir. Alors, c'était dans le devoir d'aujourd'hui, un texte sur le Mathieu David Gagnon. Finalement, il y a aussi un texte dans le devoir de la semaine dernière, samedi dernier, sur Hydro-Québec qui veut se lancer dans le solaire. On veut élargir, disons, la palette énergétique des Québécois. Alors, après des années d'hésitation, le Québec s'apprête à embrasser l'énergie solaire depuis cette semaine. Hydro-Québec subventionne les panneaux photovoltaïques sur les maisons et un appel d'offres pour les premiers parcs solaires vient de se conclure, suscitant des propositions de cette île à Turceau. Alors, c'est intéressant. Dans l'article, on émet des doutes. C'est que les besoins d'électricité des Québécois sont quand même importants. On pense pas que le solaire va combler toute la demande, mais quand même, c'est une façon de faire un bout, en tout cas. C'est intéressant. Et finalement, aussi, dans le devoir de mardi, un texte qui parle du dernier livre de Catherine Dorion, Le courage et la joie. Et je vous parle de ça, entre autres, parce que c'est le Salon du livre, c'est le gros événement de la semaine à Québec. Puis, pour ceux qui voudraient rencontrer Catherine Dorion, je pense que c'est samedi. Il s'agit d'aller dans le programme là, du Salon du livre et écrire Dorion, puis ça va sortir. Samedi, elle va avoir une signature de son livre. Et aussi, il va y avoir une table ronde avec Jonathan Folco. Son livre, c'est Le courage et la joie, traverser la tempête fasciste sans perdre le nord. Alors, ça, c'est le gros événement de la semaine. Le Salon du livre, il y a beaucoup d'auteurs que moi, je vais rencontrer. C'est pas simple, par contre, de se retrouver dans le programme, mais comme, par exemple, moi, je vais avoir en entrevue au mois de mai Monsieur Grenier, j'ai oublié son prénom, Gabriel Grenier, qui écrit un livre sur les, j'en ai parlé la semaine dernière, là, les forêts anciennes. Alors, lui, il va être au Salon du livre, on peut le rencontrer, il va avoir une séance de signature. Et dernier événement, cercle de discussion, Aristote et l'écologie, mardi 14 avril à 19h, c'est au Centre Frédéric Bach, à la salle Michel Leclerc. C'est un invité spécial, Josué Castillo, qui est un diplômé dans philosophie de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Alors, on va parler d'Aristote et l'écologie. Il va y avoir une présentation PowerPoint au début, puis après ça, une discussion en groupe. Et si vous voulez vous participer à ce cercle de discussion-là, on vous demande si vous pouviez vous inscrire. Alors, téléphonez aux Amis de la Terre, là, au 418-524-2744. Et toutes les infos, le détail concernant cette activité-là, vous le trouvez sur le petit site, le site Internet du Comité Simplicité Volontaire. Juste à écrire dans Google, le Simplicitaire. L'adresse du site, c'est simplicitaire.org, mais en écrivant simplicitaire, l'adresse du site va sortir. Alors voilà, c'était pour mes lectures de cette semaine. Maintenant, on va passer à notre petite capsule poésie avec Luc Vigneault.
Ne laissons pas mourir nos espoirs. Pour que la lumière du jour viennent sursoir aux ténèbres du soir. Il faut se cramponner, afin d'un jour pouvoir voir à travers le noir du plus profond des tréfonds de ce désespoir qui nous accable au soir venu, lorsque l'on cherche une lueur d'espoir à travers ce brouillard à tailler au couteau de ce contre-pouvoir d'agir sur nos vies. Et du même coup, sursoir à l'espoir devant l'obscurantisme du soir menant droit vers l'ornière du désespoir, du cynisme, où l'on s'aperçoit, souvent trop tard, que l'on y a trop longtemps erré pour apercevoir la lueur du jour au bout du tunnel du soir. De grâce, ne laissons pas mourir nos espoirs.
Il voulait, il y pense, il espérait, puis en parlait. Il l'a pas fait, il a pas bougé, il l'a regretté. Elle est partie, puis a perdu son temps. Le temps, ça court par en avant. Il est toujours plus tard qu'on pense, il est toujours. Elle voulait, elle rêvait, elle priait, elle rien dit, elle s'est tue, elle l'a perdu, lui l'a jamais su. Elle a perdu son temps, le temps ça court par en avant, il est toujours plus tard qu'on pense, il est toujours plus tard qu'on pense. Par où tu regardes, laisse tes traces t'oublier. Si t'as quelque chose à faire, dis-le-moi, dis-le-moi,
dis-le-moi, dis-le-moi, dis-le-moi. Il fallait, fallait.
C'était dit, c'était promis, la grande moitié presque signée. Mais la mode a passé, on oublié, changé d'idée. Triste à pleurer, et ont perdu leur temps. Le temps ça court par en avant. Il est toujours plus tard qu'on pense, il est toujours plus tard qu'on pense. Par où tu regardes, laisse tes traces t'oublier. Si t'as quelque chose à faire, dis-les-moi, dis-les-moi,
dis-les-moi.
En veux-tu, si t'es prêt ou si t'es perdu, mets ta main dans la mienne, avançons dans le temps. Tu veux pas disparaître, moi non plus, moi non plus. Faut pas perdre en mourant, le temps ça court par en avant. Il est toujours plus tard qu'on pense, il est toujours. Faut pas perdre en mourant, le temps ça court par en avant. Il est toujours plus tard qu'on pense, il est toujours.
C'était Fred Pellerin, toujours plus tard qu'on pense. En début d'émission, j'avais la pièce Walden de Richard Séguin. Alors, Marie, est-ce que tu es avec nous?
Oui, salut Jacques.
Bonjour Marie. Alors, c'est notre invitée cette semaine, Marie Thévard, qui est l'auteur du très beau livre que si vous voulez faire du jardinage, de la permaculture, là, Le Jardin Vivrier, vraiment, c'est un beau livre, une bible, je dirais. Là. Et j'ai rencontré Marie là, la semaine, ben, là, il y a 3 semaines environ, au début du mois de mars, comme je vous disais, là, à la fête des semences. Elle a fait une très belle présentation et que j'ai bien vu que c'était plus que juste du jardinage qui était question, c'était de philosophie, donc j'ai dit... Il faut qu'on invite Marie à notre émission.
Merci pour la belle présentation.
Puis, j'aimerais ça, parce que là, probablement que les auditeurs te connaissent pas, ou en tout cas, probablement, il y en a qui doivent te connaître, c'est certain. Moi, en tant que jardinier, j'avais déjà ton livre depuis qu'il est sorti, là, depuis 2021. Voudrais que tu nous parles, parce que quand même, c'est assez spécial, là, le parcours. En fin de compte, c'est que tu vis avec ta mère. C'est ta mère qui a commencé ça, là. Puis elle c'est une souche paysanne en France. Il y a tout un historique. Je ne sais pas si tu pourrais un peu nous faire un topo rapidement, là, d'où vient toute ta démarche.
Oui, ben en fait, mes parents se sont rencontrés en France. Ma mère est française. Puis ils étaient les deux dans une recherche d'un mode de vie écologique, cohérent, si on veut, avec la nature. Puis ça allait aussi de soi avec un mode de vie plus communautaire. Donc, après leur rencontre, ils ont voyagé ensemble. Ils ont été sur les traces de Gandhi en Inde et aussi dans les communautés de l'Arche de l'Anza del Vasto en France. Donc, ça les a inspirés de venir au Québec, parce que mon père est québécois, donc de venir au Saguenay créer leur propre éco-communauté. Voilà, donc, pardon, c'est ça, moi je faisais partie du projet aussi. Donc, je suis née sur la terre l'année où ils ont acheté la terre pour faire leur projet d'éco-village.
Oui, oui. Puis c'est ce qui est remarquable, là, c'est en fin de compte, le titre de ton livre, Le jardin vivrier, autosuffisance et non-travail du sol. C'est qu'ils sont presque autarciques, là, tes parents, au niveau alimentaire, là.
Ouais, ben mes parents sont divorcés aujourd'hui. Oui. C'est ça, c'est ma mère qui a repris la maison, puis c'est elle qui a toujours plus été investie dans les jardins. Elle vient d'une famille paysanne, là, de petits agriculteurs français de génération en génération. Donc elle, ça coule dans ses veines, un peu comme dans les miennes. Puis c'est ça, on a créé ensemble, ma mère et moi, la technique de non-travail du sol qu'on applique maintenant au Saguenay. Puis ça a beaucoup augmenté nos rendements. Puis en diminuant le travail, donc ça a permis de vraiment booster notre autonomie alimentaire, même sur un petit terrain résidentiel. Donc aujourd'hui, ben pour l'écriture du livre, j'ai fait le calcul. Donc du point de vue financier, ça revient à 70% d'autosuffisance. 60% en 2019, là, mais c'est ça, là, on a encore augmenté, puis les prix de l'alimentation augmentent aussi. Donc aujourd'hui, j'estime que c'est 70%, c'est-à-dire que notre facture d'épicerie nous coûte 30% d'une facture d'épicerie normale.
Puis, ouais. Puis moi, ben comme je disais, c'est qu'il y a deux... Moi, je suis jardinier personnellement, mais je suis loin d'avoir acquis la méthode, c'est une expertise surprenante là, dans le livre, là. Mais ce que je trouve beau, j'essaie de le pratiquer, en tout cas, c'est le non-travail du sol. Derrière le non-travail du sol, il y a une philosophie là-dedans. Puis c'était un peu, je ne sais pas si tu as écouté l'extrait que j'ai lu d'Élisée Reclus là, en début d'émission.
Non.
Tu ne l'as pas entendu, OK. Ben, c'est que il dit que les hommes, mais ça c'est Élisée Reclus, c'est un géographe du 19e siècle, là. Puis il dit que les hommes ont toujours été, ont développé la terre de façon barbare. C'est que on a développé, exploité la terre de façon pas respectueuse de la terre. Puis le non-travail du sol, c'est ça que ça symbolise, c'est que le sol, la vie, la forêt, les arbres, c'est des milieux fragiles, vivants, remplis de vie, puis que si on respecte ça, ben on peut les mettre à notre service.
Ben ouais. Ben oui, c'est exactement ça, ouais. Puis l'essence du non-travail du sol, c'est l'imitation du sol forestier. Parce que, en tout cas, c'est un des livres qu'on a lu qui nous a mis sur la piste, dans le fond, en faisant la réflexion que dans la forêt, il n'y a personne qui arrose, qui désherbe, qui laboure, qui engraisse. Puis les forêts, ils produisent beaucoup plus de biomasse que nos terres cultivées. Fait que les auteurs, c'est Bernard Bertrand, l'auteur qui se disait peut-être qu'on fait quelque chose à l'envers. Donc, le non-travail du sol, finalement, c'est l'imitation du sol forestier en nourrissant le microbiote du sol. Donc, en apportant des couches de paillis, parce que dans la forêt, il y a toujours une couche de litière au sol qui s'accumule puis qui est assez épaisse. Puis c'est le microbiote qui est dans le sol, il se nourrit de cette litière-là, puis c'est lui qui laboure en créant ses galeries, c'est les mycéliums des champignons, en insérant aussi de la matière organique dans le sol, etc. Donc, c'est lui qui laboure à notre place, puis il laboure beaucoup mieux que nous parce qu'il crée aussi la structure du sol, puis il crée des alliances, des associations avec les plantes qui font qu'il peut amener plus de nutriments aux plantes. Donc, quand le microbiote est à son plein potentiel, bien, la fertilité du sol est aussi à son plein potentiel. Donc, c'est vraiment l'idée de reproduire finalement le fonctionnement naturel du sol, puis de faire équipe avec le microbiote, qui est, on le sait maintenant, un des principaux réservoirs de biodiversité de la planète, là, avec les océans. Donc, la science aujourd'hui comprend pas encore toutes les interactions qui se passent dans le sol.
Non, c'est ça. Je trouvais ça surprenant qu'est-ce qu'Élisée Reclus disait, imagine, au 19e siècle, qu'on est déconnecté de la vie, hein, il faut se reconnecter. Puis, tu sais, je ne sais pas si tu te souviens, mais je t'avais posé une question. J'ai dit, coudonc, tu travailles jamais ton sol, mais il n'y a pas du compactage, là, à un moment donné. Puis tu disais, non, le sol, il est extrêmement meuble parce que c'est la vie qui l'ameublit. Tu sais. Puis je voyais, tu avais des photos de carottes de votre jardin. Là. C'est des, tu sais, quand le sol est compact, là, les carottes, ils ont de la difficulté à descendre. Là. Ça fait qu'ils deviennent larges. Là. J'en ai moi, mon sol était compacté un peu. Puis j'avais une racine. La carotte, c'est comme une racine, mais elle avait plusieurs racines. Elle a la difficulté d'aller en profondeur. Là. Tandis que là, vos carottes sont géantes. Puis longue, là, qui ont quasiment un pied de long ou plus, même.
Oui, puis on est dans l'argile ultra fine. On a fait le four à pain avec, dans la grosse argile bleue, ultra dure. Là. Avant de passer au non-travail du sol, on en a mis des efforts à essayer de travailler ce sol-là. Puis aujourd'hui, si on soulève le paillis, on peut rentrer la main dans le sol comme dans un sac de terreau. Là. C'est vraiment impressionnant.
Ben oui.
Oui.
Fait que... C'est ça. Moi, je m'intéresse beaucoup à cette nouvelle façon de cultiver là. Et comme j'ai un jardin communautaire à Québec, puis tous les jardins communautaires sont bio. Depuis, disons, les premiers jardins communautaires, là, ça a commencé dans les années 70 à peu près. Là. Puis à cette époque-là, ben on était bio. Puis ça a demeuré. Mais là, on est rendu à une deuxième étape. Là. Et ça commence déjà au jardin où je suis. Là, on va encourager les gens à cultiver. On donne le nom permaculture, mais ça, permaculture, on pourrait donner aussi non-travail du sol. C'est à peu près la même chose.
Ouais.
C'est semblable. Et on avait des gens, des urbainculteurs. Je sais pas, j'imagine que tu les connais, les urbainculteurs.
Oui, en partie, oui.
Puis qui sont venus donner une formation. Puis c'est des jeunes qui font de la permaculture, puis ils regardaient les jardins des gens, puis ils ne comprenaient pas mais pourquoi le sol était à nu comme ça, là, tu sais.
Oui, c'est une aberration. Ouais. Le sol nu, c'est vraiment contre-productif.
Oui, exactement. Alors, on est en train de changer là, notre façon de voir, en fin de compte, de voir la vie... autrement dit, le jardinage, c'est drôle, mais le jardinage traditionnel, c'est comme un peu comme une dictature, tu sais. On décide, tu vas faire pousser ça, pas d'autre chose, ça. Tandis qu'en permaculture, c'est pas une dictature, c'est un dialogue avec la terre.
On peut voir ça comme ça, oui. C'est sûr qu'on décide quand même ce qu'on cultive.
C'est sûr.
Parce que ça reste des terres cultivées.
Oui, sauf que...
Mais on travaille plus en équipe avec la vie de l'écosystème.
Voilà. Puis on n'impose pas nécessairement. Ça se peut que des choses qui ne marchent pas pour certaines raisons ou d'autres choses marchent bien. C'est beaucoup de l'écoute, là.
Beaucoup d'écoute, je pense que c'est le mot, hein, exactement. L'écoute de soi aussi, puis l'écoute de l'environnement, puis travailler avec ce qui est là, finalement, là.
Ouais.
Puis finalement, on a du mal à écouter parce qu'on trouve que c'est beaucoup d'investissement d'énergie. Mais finalement, c'est ça qui est le plus rentable, parce qu'après, on peut travailler avec les forces les forces en place au lieu d'aller contre elles. Quand on travaille avec la nature.
Ouais, puis...
la nature, c'est une force insurmontable. Là, donc, oui. On est aussi bien de la mettre de notre part.
Mais c'est spécial. Je sais pas si j'ai bien compris. Quand tu as fait ta présentation, tu disais que vous êtes passé à l'agriculture, au jardinage, sans travail du sol, suite à que ta mère, elle avait comme la difficulté là, à passer le rotoculteur. Là. Je pense que... je sais pas si j'ai bien compris. Là.
Puis ben, que... En fait, c'est que depuis le début, mes parents, dans les débuts du projet, il y avait déjà un objectif de se passer des énergies fossiles.
Ah, OK.
Puis, donc, ma mère, depuis déjà de nombreuses années, elle labourait plus au rotoculteur.
OK.
Elle bêchait son jardin à la main. À tous les ans, là, tu sais, au moins à l'automne, puis au printemps, automne-printemps, mais au moins une fois, là, tu sais. Puis son jardin, il agrandissait toujours, donc ça devenait très physique, là, de bêcher tout à la main, en plus dans l'argile, comme ça.
Ben oui.
Soit c'est trop mouillé, soit c'est trop sec, ça rentre plus, fait que... C'est ça, c'était beaucoup d'efforts. Puis il y a une année, c'est en 2011, qu'elle s'est blessée à une hanche. Puis elle s'est dit, je pourrais pas bêcher mon jardin cette année, tu sais. Puis c'est là où beaucoup de gens auraient juste arrêté ou rapetissé le jardin. Elle s'est dit, ben je vais juste arrêter de labourer. Fait qu'elle s'est acheté des livres qui parlaient du non-travail du sol, plus en Europe. Puis c'est là qu'elle a commencé la technique. Puis peu à peu... elle a vu les résultats, puis elle a plus envie de labourer jamais.
Ben oui.
Fait qu'on, finalement, à partir de 2012, on n'a plus jamais revu le sol du jardin. Là. On n'a pas retouché au sol, même pas de grelinette, rien du tout. Là. Oui. On met du paillis, on remet du paillis tout le temps, mais on n'a jamais rebêché le jardin depuis ce temps-là. Puis aujourd'hui, même les nouvelles planches, quand on agrandit le jardin puis qu'on ouvre une nouvelle planche, on arrive à la démarrer directement dans la couenne sans pêcher.
Ah oui, directement. Incroyable.
Ouais.
Juste tout simplement en mettant du paillis.
Oui, du paillis carton, puis en sélectionnant compost paillis carton, puis en sélectionnant les plantes qui marchent dans cette technique-là. Là, on peut pas mettre des carottes dans le couenne de chien dents.
Ouais.
Mais c'est ça, on peut passer un coup de grelinette au départ. La première fois pour donner un petit coup de décompaction. Puis après, c'est tout. Ouais.
Puis le qu'est-ce qui arrive au chien dent? Il meurt, c'est ça?
Ouais, c'est ça.
OK.
Il est occulté en cultivant, finalement.
Wow.
C'est assez impressionnant. Il y a une année qu'on a fait ça au mois de juin. Le chien dent, il était 2 pieds de haut, il nous arrivait à la taille. Et on a parti des courges là-dedans, puis ça a très bien marché.
Incroyable. Puis, c'est ça que tu disais, que dans le fond, le travail à faire, c'est que c'est vivant, là. C'est comme un milieu vivant. Et il faut l'alimenter. Il faut ramener toujours du paillis. C'est ça le défi, là, de remettre du paillis, parce que tout le microbiote, comme tu dis, les vers, les petits insectes, les petits, ils se nourrissent du paillis.
Oui, exactement. Puis c'est ça qui est... La technique de non-travail du sol, ça a tous les avantages. mais l'inconvénient, c'est qu'il faut qu'on ait toujours 10 cm de paillis. Fait que pas juste quelques brins en surface. Il faut vraiment qu'il y ait un manteau sur le sol.
10 cm.
Puis c'est là qu'on se rend compte... Ouais, 10 cm. Mais c'est là qu'on se rend compte que le microbiote, il est vivant. Parce que il mange aussi. Tu sais, le paillis se décompose assez vite. Fait que c'est quand même la job d'amener du paillis. Ben, de la job, tu sais, je veux dire, quelquefois dans l'été, il faut en rajouter. Puis en plus, on veut prendre n'importe quelle matière végétale qui traîne, tu sais, des feuilles mortes, du BRF, de la tonte de pelouse, n'importe quoi, tu sais. Fait que, mais c'est la job, finalement, c'est ça, c'est de rester à l'affût des matières organiques puis de les acheminer au jardin. Mais de mon point de vue, c'est beaucoup plus agréable que de bêcher ou de rester accroupi à désherber pendant des heures.
Ben oui.
Parce que finalement, on désherbe plus non plus, presque plus. Parce que la couche de paillis, ça fait un peu de l'occultation aussi. Les herbes ont du mal à passer. Puis en plus, on n'arrose plus non plus. Nous, on n'arrose plus jamais le jardin. Là.
Incroyable.
On l'arrose au semis puis à la plantation pour aider au démarrage, mais après, on n'arrose plus jamais de l'été, même s'il y a 3 semaines de sécheresse. Fait que finalement, on remplace le labour, l'arrosage, puis le désherbage par apporter du paillis, qui est une job que moi, je trouve quand même agréable de se promener avec une brouette de feuilles. Mmh. Tu sais, c'est beaucoup plus doux pour le dos. Fait que, mais ça reste que c'est pas du non-travail, tu sais. Il y a des gens qui confondent un peu non-travail du sol puis non-travail.
C'est mais... Non, c'est ce que j'ai vu, que c'est quand même beaucoup de travail, là. Mais il est immense, ce jardin.
Ça reste un jardin, oui.
Ouais.
Mais travail, après, tu sais, si c'est du travail agréable, c'est pas pareil non plus.
Ouais. Moi, on va prendre une petite pause musicale, mais avant, j'ai une question personnelle. C'est que j'ai commencé, je le fais, mais c'est comme vraiment néophyte, là. Puis j'ai vu que mes tomates, ils décollaient pas l'année dernière, puis je pense que c'est parce que le sol n'était pas assez réchauffé. Qu'est-ce que vous faites pour ça? Est-ce que vous enlevez le paillis pour donner une chance au sol de réchauffer?
Nous, on n'a jamais vu tant que ça de différence avec ou sans paillis sur le réchauffement du sol.
OK.
Parce que avec le paillis, le sol, il gèle moins aussi. Fait qu'il dégèle aussi plus vite.
C'est vrai. Bon.
Fait que, puis surtout, ben nous, les tomates, on les porte dans la serre. Là, on a une serre fixe où le plastique, il reste tout l'hiver. Donc, le sol, il réchauffe aussi plus vite au printemps.
Oui.
Mais pour le gel du sol, on n'a pas vu de différence, même qu'on démarre le jardin plus vite, vu qu'on n'a pas besoin d'attendre que le sol, que la fonte de la neige se ressuie, que l'eau coule. Tu sais, on marche dans les chemins, puis on n'a pas besoin de travailler le sol. Donc, finalement, on fait juste écarter le paillis, puis planter au travers.
Oui. Mais malgré des tomates, ça aime la chaleur, là. Alors,
les tomates, c'est sûr, là, ouais.
Alors, ça doit...
Tomates, concombres, poivrons, tout ça...
Ça aime la chaleur. Fait que si le sol est comme isolé du soleil, il doit prendre un peu plus de temps à se réchauffer, c'est ça que je veux dire?
C'est ça. Comme je disais, on n'a pas remarqué tant que ça de différence.
OK.
Mais c'est sûr que nous, on est au Saguenay. Peut-être que ça dépend aussi des régions. Comme nous, pour les tomates, il faut vraiment attendre qu'ils gèlent plus.
Oh, ouais, ça, c'est sûr.
Ça nous mène quand même tard. Là. Ça nous mène en juin.
C'est ça.
Donc,
ouais, c'est ça. Peut-être que je les ai plantés, moi, comme mes plants, peut-être en mai, là, c'est ça, l'affaire. OK.
Ouais.
Fait que, on va prendre une petite pause musicale, puis là, on va entrer un peu plus en philosophie au retour.
Ça marche. À tantôt. Thank you.
c'était Yann Tiersen, la tirée de la musique du film Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, dont je vous parlais tantôt. C'était la valse d'Amélie. Alors, comme je disais, on va parler un peu plus de philosophie, qui est l'émission. Ce n'est pas une émission sur le jardinage, mais le jardinage et la philosophie, ça se rejoint. D'ailleurs, l'an dernier, la revue Philosophie Magazine, dont je parle régulièrement, a sorti un beau numéro, un hors-série sur le jardinage et philosophie. Et, c'est quoi le lien? C'est que, surtout quand on fait de la permaculture, ça change notre vision du monde, notre vision de la vie. Puis c'est là qu'on arrive avec la philosophie. Alors, j'imagine que tu as des choses à nous dire là-dessus, sur la vision du monde, que ça veut dire de cultiver de façon respectueuse la nature.
Oui, j'ai plein de choses à dire là-dessus, c'est sûr. en général, tu veux dire?
Oui, oui. Oui, en général.
Que ça veut dire, je trouve que ça impacte le plus sur nous, c'est de calquer notre vie finalement au cycle de la nature. On pense en premier au cycle des saisons, ça c'est sûr. Puis c'est la nature qui devient notre patron finalement. Parce que avec le système actuel, avec la bouffe qui arrive, tu sais, en tout temps, dans le frigo, avec l'électricité qui fait qu'on peut ajuster l'éclairage, bien, on vit beaucoup moins le cycle des saisons. Mais le jardinage, ça nous ramène inévitablement à ça, finalement, aux astres, si on veut, si on parle même juste du soleil. Ça peut être la lune aussi, mais on la sent un peu moins en jardinage, même s'il y a quand même des courants de jardinage qui s'en tirent beaucoup. Mais juste le cycle solaire de l'année, on peut pas s'en déconnecter parce que on a des dates précises pour partir les semis, des dates précises pour récolter, tout ça, puis on le sent passer dans notre corps tout au long de la saison de jardinage. On le sent, l'énergie qui pousse, la croissance des plantes, puis à la fin de l'été, ça ralentit, mais là, c'est les récoltes, donc c'est une autre énergie. Puis ça fait que ça ramène vraiment la connexion dans le corps avec ces énergies-là qui sont naturelles finalement puis qui nous portent. Fait que ce que moi ça m'a apporté beaucoup, ben c'est de me calquer là-dessus puis de me faire porter par les cycles. Tandis que quand j'étais plus dans le système, si on veut, que mettons j'étais à l'école, j'avais des examens puis j'achetais ma bouffe, tout ça, ben par exemple, j'étais souvent en épuisement à l'automne parce que là, on allume l'électricité le soir, puis les journées sont longues, on travaille fort, il y a des examens, on prépare le temps des fêtes. On est beaucoup dans l'action alors que la nature est au repos, puis elle est dans la descente, dans l'énergie vers vers le compostage, si on veut, vers la mort. T'sais. Donc, en me calquant là-dessus, finalement, puis en acceptant qu'à l'automne, l'énergie descend, ben j'ai appris à moins allumer la lumière, à vivre plus dans le noir, puis c'est ça, à suivre finalement ces mouvements-là, puis à me rendre compte que dans ce qu'on considère qu'il n'y a pas d'énergie à l'automne, on se dit ah, j'ai pas d'énergie. Finalement, il y en a de l'énergie quand on profite de ce moment-là pour faire le bilan, pour se reposer, pour travailler différemment. Par exemple, au lieu de semer puis planter, d'être vraiment dans l'action physique dehors, ben on est assis au bord du poêle avec les orteils qui chauffent devant le feu, puis on trie des bines, par exemple. Oui. Mais le cycle de jardinage, il marche. C'est ça qui est vraiment émerveillant. C'est qu'on voit la synchronisation de tout ça. C'est que notre énergie naturelle a match avec les besoins de la production alimentaire. Fait que finalement, ben en suivant ces énergies-là, ben je me retrouvais à être moins fatiguée, puis à être que la connexion avec les cycles de la nature, finalement, ça me donne de l'énergie. C'est comme une autre énergie que juste les calories que je produis. Puis, c'est un peu dur à expliquer, mais, mais c'est vraiment impressionnant.
Puis nous autres, notre émission, on a trois sujets, là. C'est l'écologie, on l'aborde avec le jardinage, la philosophie, on en parle un peu maintenant, et la simplicité volontaire. Puis l'aspect simplicité volontaire aussi, on le voit beaucoup là, dans le livre, là, c'est que vous, ben, tu sais, comme tu disais, tes parents essayaient d'éviter le plus possible d'embarquer dans la consommation des énergies fossiles. Là. Alors, ouais. Vous êtes beaucoup dans l'anti-consommation, dans le fond, et dans un mode de vie quand même frugal, mais abondant, parce qu'on regarde ce que vous mangez, là, les recettes que vous préparez, ça a l'air délicieux. T'sais. Autrement dit, il y a une richesse en arrière de la frugalité. Là. Puis vous faites beaucoup de choses, là, j'en viens pas, le tofu. En tout cas, c'est remarquable. Là. Il y a beaucoup de... Évidemment, on revient... Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de travail. Il y a beaucoup de travail, mais ça donne une belle qualité de vie, là.
Oui, ça, c'est sûr. Puis une abondance qui... Des choses qui n'ont pas de valeur dans le système économique, donc qu'on ne peut pas acheter. Mais c'est juste, finalement, le système économique a décidé que ça n'avait pas de valeur, tu sais.
Ouais.
Parce que avoir du temps pour soi, faire des travaux méditatifs, trier des bines, tu sais, on voit que, par exemple, le tricot, ça revient beaucoup à la mode parce que les gens, ils ont besoin aussi d'être juste assis puis de travailler avec les mains, tu sais.
Ouais.
Fait que c'est des choses, tu sais, combien ça vaut, tu sais. Quelqu'un qui travaille à temps plein, 40 heures, puis qui achète toute sa bouffe, il en reste pas beaucoup du temps pour tricoter. Tandis que là, tu tries des bines, mais en plus, tu produis ta bouffe. Tu sais, mais dans le système économique, ça apparaît nulle part. Mais puis en plus, c'est de la bouffe d'extrême haute qualité.
Ben
tu n'achètes pas
ben
non
oui,
plus.
Fait que, ben
oui. On appelle ça de la frugalité, mais au bout du compte, c'est une abondance...
Ben oui, puis d'ailleurs...
Qui s'achète pas, là, tu sais, que même si t'es riche, tu pourras même pas acheter ça, tu sais.
D'ailleurs, dans le chapitre, ben, il y a une partie du livre qui est par mois, là, tu sais, le chapitre. Puis le chapitre du mois de septembre, ça dit « Abondance, conserve, protection contre le gel et occultation ». Tu sais, il y a toutes les conserves aussi que vous faites, là, que c'est magnifique, là. Puis, ben,
ouais, on fait pas beaucoup de conserves.
Non?
Parce qu'on a un caveau. Okay. Puis tous les légumes sont gardés frais dans le caveau, puis okay. On les cuisine au fur et à mesure à basse température, ce qui permet de conserver mieux les nutriments.
Okay.
Puis aussi, puis de manger, par exemple, des salades crues, parce que tous les légumes sont conservés crus.
Oui.
Ça sauve aussi beaucoup d'énergie, parce que c'est beaucoup d'énergie de cuisiner à l'autoclave, en plus, c'est des hautes températures.
Oui.
Puis les hautes températures, ils détruisent beaucoup de nutriments. Puis en plus, on n'a pas forcément envie de cuisiner pour toute l'année au mois de septembre.
Oui, c'est certain.
Fait que nous, on fait, par exemple, des lactofermentations, de la choucroute, puis on canne du coulis de tomates.
C'est
fait
ça, que, ça on le voit, les coulis de tomates.
Autrement.
Mais j'ai même vu que vous aviez réussi à conserver des tomates fraîches pendant tout l'hiver dans votre caveau, là.
Oui, pas dans le caveau, dans la maison.
Ah,
directement dans la maison.
Dans la maison, ouais. Quand même, il faut le faire.
Oui, ça, c'est une variété spéciale.
OK, c'est ça, des tomates du Madagascar, je pense.
Oui.
Des petites tomates. Bon, alors là, l'émission avance. On prend une dernière petite pause musicale. Puis au retour, on va conclure. Je ne sais pas si tu as une conclusion à tout ce qu'on s'est dit que tu voudrais exprimer. En tout cas, on prend une pause musicale de quelques minutes, puis on revient pour conclure l'émission.
Ça marche.
Alors, c'était un extrait de Flore Laurentienne, dont je vous parlais tantôt, la pièce Kamouraska. C'est Mathieu David Gagnon. Alors, on revient avec, on est de retour avec Marie Thévard, qui est l'auteur du livre Le Jardin Vivrier. Là, tout ce dont on parle à l'émission, là, c'est juste comme des extraits du livre. Pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, je vous recommande ce livre-là. C'est aux éditions Éco-Société. Alors, Marie, qu'est-ce qu'on a pour le mot de la fin de l'émission?
J'ai préféré que j'ai du mal à partir sans en parler. C'est le recyclage des toilettes sèches aussi.
Ah, OK.
C'est ça qui est chez nous, qui est, je dirais, une des clés du succès, sinon la clé du succès. Parce que, dans le fond, c'est, je parlais des cycles, tantôt des cycles de la nature, mais ça, ça en fait partie. Parce que on prend au sol de la matière, puis actuellement, on ne retourne pas. Puis c'est ça qui fait, c'est tellement logique quand on en parle, mais c'est ça qui fait qu'on vit une époque dramatique où les sols sont en perte de fertilité grave. Là, tu sais, il y a beaucoup d'érosion. C'est un centimètre de sol de sol arable qui part chaque année dans certains cas. Puis, en fait, c'est aussi le sujet du phosphore, parce que le phosphore est un élément essentiel à l'agriculture qui se concentre beaucoup dans les composts et fumiers animaux. Puis, c'est un élément rare. Il est mal réparti sur la planète, puis nos sols sont souvent pauvres en phosphore. Puis, donc, on extrait du phosphore de mine, on le met dans le système agricole, puis finalement, on l'évacue dans l'eau. Fait que, puis le phosphore, il n'y en a pas des ressources infinies non plus sur la planète. Fait que, c'est ça. Fait que c'est, pour nous, ça a été vraiment un élément majeur de la fertilité des sols, c'est que on a des sources de compost presque infinies. Là. T'sais, on a des tas de compost d'avance. Une fois qu'on a engraissé tout le jardin, on a encore du compost, on ne sait plus quoi en faire. Fait que c'est des quantités non négligeables. Puis, c'est là aussi qu'on s'inscrit pour vrai dans une relation réciproque avec le territoire qui nous nourrit. C'est qu'on nourrit en échange le territoire. on ferme la boucle finalement dans l'écosystème parce que lui, de quoi il a besoin? Ben, il a besoin de matière organique puis d'engrais, puis nous, on en produit chaque jour. Fait que finalement, on est producteur chaque jour de notre propre fertilité qui peut nous nourrir. Mais c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur parce que c'est à la fois pour moi le problème majeur de notre système actuel, c'est qu'on a coupé le cycle du lien au territoire en lui retournant pas. Puis à la fois une clé tellement simple puis tellement à la disposition de tout le monde, c'est-à-dire tout le monde qui va aux toilettes tous les jours.
Oui.
Donc pour moi, c'est vraiment une prise qu'on a vraiment majeur sur reprendre en main notre autonomie alimentaire finalement puis notre production de richesse, c'est carrément en passant par l'alimentation.
C'est sûr que mais les toilettes sèches, ça existe.